une production du Studio SF.
Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis Pierre Quentin, avec moi, Doom Plante.
Aujourd'hui, c'est un grand honneur de recevoir la mairesse de la ville de Montréal, Valérie Plante, qui est venue ici après avoir annoncé qu'elle ne se représentait pas aux prochaines élections municipales, que dans le fond, ce mandat sera son dernier mandat. Et puis, on fait un genre d'un peu de bilan de son mandat, ses fiertés, ce qu'elle a trouvé plus difficile, les enjeux principaux de Montréal, qu'on parle d'itinérance, de logement, de mobilité. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi son pouvoir à elle? Qu'est-ce que les autres aussi, pas les gouvernements, pourraient faire de mieux ou de plus? Une personne avec une personnalité rayonnante, là, pour ceux qui la connaissent, en fait, vous la connaissez, est comme ça quand la caméra tourne et comme ça quand la caméra ne tourne pas. Intéressée aux autres, intéressée à faire de son mieux pour cette ville-là qui est Montréal, ville qu'elle aime beaucoup, ça paraît. Donc, un grand plaisir, un grand honneur.
Une personne qui suit son instinct et ses valeurs aussi. Puis je trouve qu'en politique, c'est de plus en plus rare quelqu'un qui va vraiment au bout de ses convictions puis qui ne gouverne pas
au gré des
sondages, comme on dit souvent. Puis on en parle justement de ça. Pourquoi est-ce qu'on est un peu paralysé dans les grands projets d'infrastructure? Mais c'est souvent qu'on suit les sondages, on suit les oui, on suit les non. Mais Valérie Plante, qui n'est... définitivement pas comme ça, du moins on a été à même de constater qu'elle a fait ce qu'elle a dit qu'elle allait faire. Puis on en parle durant le podcast, c'est une superbe conversation, puis bon podcast.
Bonne écoute.
Merci beaucoup d'être là.
Bonjour.
C'est super le fun.
Merci de l'invitation.
Ben oui.
C'est vraiment un plaisir. C'est un honneur de vous recevoir.
Oui, tout à fait.
Aujourd'hui, on voulait discuter plein de choses avec toi.
On se vouvoie. D'ailleurs, on se tutoie.
Avec
d'ailleurs.
Toi. Oui, il fallait le dire.
On peut se tutoyer.
En plus, c'est drôle ça. Parce que je vous ai vouvoyé en plus.
Moi, je vais vous vouvoyer. Là, t'es le premier à dire.
Puis je vous voyais juste avant qu'on tourne, puis on se met à tourner. Puis
je vois sans le demander.
C'est la magie.
Bon, c'est la magie du live. C'est comme ça que ça s'appelle.
Est-ce qu'on a le droit de se tutoyer? Je vais souvent passer d'un à l'autre au cours du
live. Parfait, moi aussi, probablement.
Parfait.
On donne cet espace-là.
Est-ce que t'aurais le réflexe de me vouvoyer?
Mais honnêtement,
votre gilet Iron Maiden.
Mais non, moi, sérieusement, j'ai tendance beaucoup à vous voyer. Ouais. J'aime ça le tu, j'adore le tu, mais je pense aussi que dans ma posture, souvent, tu sais, je veux avoir des égards envers tout le monde, même mes citoyens quand je les rencontre. Je vais souvent commencer avec le vous. Ça, j'aime ça le tu.
Y a-tu du tu entre les politiciens, mettons, parce que nous, on voit toujours les conversations que tout le monde a accès, là, tu sais, donc les échanges devant les caméras, les échanges dans les couloirs, ce genre de choses-là. Mais quand les portes sont fermées et qu'on a un meeting pour faire avancer les choses ou qu'on rencontre, par exemple, François Legault, est-ce qu'on se vouvoie quand les portes sont fermées?
En général, quand les portes sont fermées, on va se tutoyer. C'est sûr que la première rencontre, c'est sûr. Moi, même des collègues politiciens que je rencontre sur une base régulière, je vous vois.
Ouais.
Et je m'attends à ce qu'on vous voit aussi. Parce que c'est pas Valérie, puis François, puis Valérie, puis... Non, non. Mm-hmm. Je suis la mairesse.
On parle au titre un peu, là.
Puis c'est vraiment important. Surtout que, malheureusement, des fois, quand on regarde, là, on voit comment, dans la politique, souvent, les femmes politiciennes vont être tutoyées beaucoup plus rapidement que les hommes politiciens. Peu importe le titre, député, mairesse, première ministre, ministre. Puis moi, je fais très, très attention à ça. Mais oui, une fois que la porte est fermée, puis que là, il n'y a plus de caméra, puis on n'a plus notre entourage, là, nos collègues, puis qu'on est yeux dans les yeux, puis on a des choses à régler, on passe au-dessus, oui, tout à fait.
Puis est-ce que les choses se règlent principalement quand on ferme les portes puis quand on tombe dans ce mode-là de discussion? Question. Parce que si je veux juste prendre l'exemple, mettons, de la négociation de Donald Trump en ce moment, qui fait juste faire une genre de négociation publique pour essayer de mettre de la pression pour après ça peut-être régler les trucs différents. Tu sais, mettons, si on pense à sa stratégie.
Ouais, ouais,
puis nous, on la voit un peu, la négociation publique entre, justement, mettons, toi, la mairesse de Montréal, puis François Legault. Puis là, on voit les... OK, moi, je dis ça dans le public sur X, puis là, moi, je réponds ça sur X, puis là, on n'a pas l'impression que c'est ça qui avance, mais est-ce que ça se règle pour vrai quand qu'on s'assoit autour d'une table, qu'on fait là, on va se parler sans qu'il y ait les bruits externes?
Mais c'est une super bonne question, puis ça amène, je pense, à... autant et de style de politicien, ça amène aussi, ça montre la façon dont ces personnes-là travaillent, autant derrière des portes closes, pour être bien honnête, que devant. Devant les médias. Mm-hmm. Je pense que pour nous, les Canadiens généralisent, là, mais en tout cas au Québec, à Montréal, l'approche de Donald Trump d'être très frontal, puis c'est des coups d'essai, hein, c'est faire de la provocation à haute voix pour voir ce qui se passe, comment ça frétille. Mais on voit que c'est une personne narcissique, là, c'est une personne qui se nourrit à être nommée, à être polémique. Alors, c'est très loin, je pense, de notre style à nous, qui, en général, on va vouloir trouver des consensus, on va vouloir se dire les vraies affaires. Donc, on n'en voit pas beaucoup de la politique spectacle comme ça, en tout cas au Québec, puis à Montréal, moi, je le vois pas. Il y a eu quelques politiciens.
Il y a quelques échanges.
Au Canada, ça s'en vient tranquillement. Là.
Ben, c'est ça. Mais...
Tranquillement, ça s'en vient vite.
Mais là, en même temps, on n'est pas encore en campagne, donc ça va être intéressant de voir le vrai contenu, parce que pour l'instant, c'est facile là, de pitcher de la garnotte, là. Mais pour moi, une campagne électorale, là, ça devient sérieux. Il faut que tu ailles des vraies idées, un vrai plan, une capacité à négocier, une capacité à aller défendre tes idées. C'est là que ça se joue, là, selon moi. Donc, derrière des portes closes, ce que ça fait en général, c'est surtout que tu peux évaluer qui t'as en avant de toi, puis c'est quoi ton... Parce que pour moi, la politique, c'est très instinctif. C'est aussi une façon de pouvoir, justement, excusez-moi l'anglicisme, mais « read the room » puis « read the person », tu sais. Puis dépendamment de ce que tu entends puis ce que tu sens, bien là, tu vas ajuster ta stratégie en conséquence. Mais moi, je suis pas une personne, tu sais, moi, je suis hyper transparente. Fait que je suis pas la... Autant j'ai fait des ententes, puis tu sais, il y a eu des fois, ça se parle fort, là, ça, c'est sûr. Bien, fort. J'ai haussé le ton, nécessairement, pour asseoir mon autorité, montrer que je connais mes dossiers, parce que c'est une chose que je peux dire, c'est que moi, je connais mes dossiers, même si j'en ai plein. Mais c'est comme une façon de jauger un peu qui est en avant de toi, puis comment on va la jouer. Mais moi, je déteste régler des affaires sur la place publique. Je déteste ça. Je trouve que ça sert personne. Pour moi, le travail devant les caméras, c'est de partager des messages. Mais moi, j'ai toujours été très attachée à la... C'est comme un outil incroyable pour vulgariser, expliquer les enjeux. Tu sais, moi, je suis pas une politicienne de slogan, là, d'une ligne, là. Tu sais, on appelle ça la clip,
axe de taxe.
Ouais, c'est ça. Mais sérieusement, quand on regarde, tu sais, j'ai beaucoup de qualités, mais ça, ça l'est moins, là. Tu sais, moi, je suis une fille de com' qui aime expliquer la complexité des enjeux, mais je trouve ça important.
Mais c'est ça, la réalité. C'est toujours plus complexe qu'on pense. Là,
c'est ça,
fait
axe
magique
de taxe. Veux-tu bien me dire ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire pas encore.
C'est facile à dire. Puis, personne n'est contre ça, dans le sens de payer moins de taxes, bien sûr, mais après ça, c'est comme...
Mais tu sais, ça rime, là. C'est caché au bout.
Mais
là,
c'est, je sais pas à quel point... Donald Trump, ça paraît que c'est lui qui arrive avec les slogans puis les surnoms puis les affaires.
Il les
essaye, puis quand ça marche pas, il le change puis il trouve autre chose. Mais Poilievre, d'après moi, il y a une agence de com un peu derrière ces slogans parce que le fait que ça rime, que ce soit comme dynamique puis qu'il se soit fait dire là, tu le répètes tout le temps, d'après moi, il y a agence de com.
On va savoir même... rapidement parce que si t'es pas capable d'adapter ton message en fonction de comment le contexte évolue, puis souvent ça évolue là, de même en politique, c'est là que tu le sais quand quelqu'un il est juste comme pas téléguidé, mais c'est des lignes de com. C'est du. Faut que tu sois capable d'adapter. Sinon, t'es juste comme un peu comme une marionnette qui répète un speech. Là, fait que, on va voir.
Dans cette même ligne d'idée-là, où est-ce que ça prend du temps pour expliquer une longue idée? Moi, je comprends pas pourquoi est-ce que en politique, il n'y a pas plus de partis qui ont leur propre format comme on a en ce moment en train d'avoir une conversation. Parce que j'entendais le maire Marchand parler à Radio-Canada en disant la différence entre quelqu'un qui dit sur les réseaux sociaux un tramway, ça marche pas l'hiver, ça vient d'y prendre 5 secondes de dire ça, puis il n'y a pas le fardeau de la preuve.
C'est ça.
Alors que d'aller prendre le temps d'expliquer pourquoi un tramway, ça fonctionne en hiver, puis pourquoi c'est pas un enjeu, ça prend vraiment plus de temps. Fait qu'une plateforme comme ça, comme un podcast, parce que, comme un podcast, comme une longue entrevue ou une longue vidéo pour expliquer des formats, est-ce que c'est juste que ça fonctionnerait pas ou c'est juste que ça n'a pas le temps dans un horaire politique de prendre le temps de parler des choses pour de vrai?
Bien, honnêtement, nous, on le fait beaucoup. Et autant la population a apprécié ça, mais autant, moi, je sais qu'il y a beaucoup de médias qui détestent ça, puis qui nous l'ont dit, qui n'étaient pas contents.
Ouais.
Parce qu'ils ont l'impression qu'on essaye d'un peu les contourner, qu'on veut juste passer nos messages qu'on a nous-mêmes, tu sais, formatés.
Ouais.
Mais moi, je me rappelle avoir fait des vidéos sur, par exemple, on avait un règlement qui disait sur, on appelle ça le 20-20-20, là. C'est quoi? 20 % de logements abordables, 20 % de logements sociaux dans tous nos projets. Ça ne s'explique pas en quatre mots, là.
Ouais.
Et là, on faisait une vidéo, puis j'expliquais dans mes mots de même, là, pas avec un texte et un téléprompteur, là, juste comme on jase. Puis les gens adoraient ça parce que ça me permettait vraiment, comme on s'entend, une minute et demie en plus. Là, ça peut pas être, mettons trois. Mais,
tu tombes pas dans les virgules et les détails.
Non,
mais
non,
détails,
là, c'est pas une thèse, là, faut que tu fasses non plus. Là. Mais ça plaisait. Puis moi, je pense qu'on le fait, mais on doit aussi doser parce qu'à ce moment-là, certains médias vont dire, ben c'est un contrôle des messages.
Ouais,
qu'on dit juste ce qu'on veut, mais à un moment donné... Les médias aussi, ils choisissent un chemin. Puis, enfin, les journalistes, ça, c'est très différent. Mais je veux dire, au nombre de chroniqueurs qui existent à la planète, là, je veux dire, eux autres, ils en choisissent un
tous
chemin.
Tous avec leur billet très clair.
Ils ne marchent pas dans les fleurs du tapis. Là, ils avancent. Fait que moi, je pense qu'il faut trouver l'équilibre.
Ouais.
Mm-hmm. Puis comment qu'on explique aussi, tu sais, comment qu'on se positionne quand à chaque position que vous allez prendre, finalement... exemple, dire ben, qu'il faudrait qu'il y ait plus de pistes cyclables à Montréal. Ben là,
un sujet très simple.
Très simple.
Consensuel.
Tout le monde est d'accord, là.
Non, mais tu sais, à mon sens, ça pourrait être simple dans le sens que, je veux dire, se déplacer en vélo, ça a juste du positif, là, à mon avis, là, environnementalement, la santé, la congestion, tout ça.
Oui.
Puis, sur la même île, t'as des gens... que tu sais que eux ils interdiraient tout véhicule sur Montréal jusqu'à des gens que tu leur dis vous faites la guerre aux automobilistes puis moi c'est mon char avant tout puis fuck les vélos puis là peu importe ce que vous allez défendre d'un côté ou de l'autre même des deux bords en même temps il y a tout le monde fâché là.
Ah c'est sûr mais je pense pour moi c'est ça la démocratie aussi là tu sais c'est-à-dire qu'il y a de la place pour toutes les opinions moi j'ai pas de problème avec ça. Est-ce que je trouve qu'on est dans une période où c'est très noir ou blanc, c'est très polarisé? Oui. Mm-hmm. Puis comme je suis une fille qui aime ça, encore une fois, vulgariser, puis j'aime ça les débats, puis j'embrasse la complexité parce que à trop simplifier, je pense qu'on oublie plein d'affaires. Tu sais, on a des œillères. Mm-hmm. Fait que moi, j'aime ça ouvrir, mais ça amène plus de c'est ça, il y a plein d'aspects à regarder. Fait que ultimement, moi, j'ai comme accepté. Là. Quand tu acceptes de faire de la politique, c'est un véhicule de transformation sociale, je considère, très puissant, avec des pour et des contre. Puis cette critique-là, elle est là. Après ça, la critique, que ce soit « j'aime pas tes pistes cyclables » ou « moi, je trouve que c'est pas bon » ou « ça m'empêche de vivre ma vie X », tu sais, jusque-là, tout va bien. Je sais pas que je veux qu'on m'aime, qu'on me lance des fleurs à chaque fois. Par contre, dès qu'il y a des insultes, dès qu'on on me traite d'imbécile, je prends un mot cute, là, imbécile.
Ouais.
Mais là, à ce moment-là, pour moi, c'est pas un droit d'insulter le monde en vie. Là. Non.
Est-ce que ça use à la longue de qu'il y a du monde fâché qui t'insulte toujours?
Ben, premièrement, je suis pas sur mes médias sociaux moi, à regarder les commentaires. J'ai la chance.
C'est vraiment une bonne idée.
Ouais, ouais. Ben non. C'est
ça,
par contre, c'est dur pour mon équipe. Vous pourriez parler à mon équipe de com. Je veux dire, eux font le ménage puis ils trouvent ça rochant.
Ouais.
Ça, c'est sûr. Je pense que c'est plutôt, tu sais, je veux dire, moi, des menaces, j'en ai reçu. Des menaces de mort, j'en ai reçu. Moi, j'ai de la sécurité autour de moi. Tu sais, je suis une personnalité publique qui polarise beaucoup. Je pense qu'aussi d'être une femme en position de pouvoir, amène un lot supplémentaire de critiques. Puis parce que je suis une femme, donc ça amène un lot supplémentaire d'incitation à la violence, même de violence sexuelle. Mm-hmm. Tu sais, c'est intense, là. Fait que c'est là où démocratie, absolument, puis je pense qu'on doit en prendre soin de cette démocratie-là, puis laisser la libre expression, puis absolument. Tout se dit, ouais, en tout cas, pas mal, tout se dit. Mais si ça incite à la violence puis insulter le monde, moi, je...
Ça, c'est la ligne de trop.
Ben, fait que c'est pour ça que je considère que tous les propos misogynes, d'après moi, devraient être condamnables de la même façon que des propos racistes ou antisémites. Là. C'est pas acceptable qu'on puisse avoir des propos misogynes aussi poussés envers les gens, puis que ça soit comme banalisé, là. Puis ça décourage aussi plein de monde, plein de jeunes femmes, puis même des chums, tu sais, je veux dire, moi, mes enfants, ils l'ont vécu, là, je veux dire, c'est pas cool de voir leur mère se faire insulter comme ça, je veux dire, je les comprendrais de peut-être éventuellement avoir peut-être une blonde qui dirait, je m'en lance en politique, hey, t'es-tu sûr, mon amour? Tu sais, je pourrais comprendre, là, parce que tu deviens politicienne, tu sais que tu vas être critiquée, mais ça fait pas partie de la job non plus, on me l'a déjà dit, ben là, c'est pas capable de prendre les critiques. C'est ça, là. C'est pas une critique,
non,
ça. C'est des insultes sur ma personne, mon physique, mon genre. Voyons!
Ouais.
C'est ça, tu sais, la limite où je suis capable d'en prendre. Là, je pense qu'après 12 ans politique, là...
Est-ce que ça reste sur Internet ou ça... Quand vous vous promenez dans
la
ville,
rue, là.
Est-ce que les gens vous abordent? Comment
les
vous
gens
abordent?
Sont... Ben, c'est ça. Mais ça, c'est
il y a personne qui vient te voir. Ben, on dit, est-ce que t'es incompétente?
Ben, c'est ça. Ben, tu devrais changer de linge, ouais. Maudite folle. Ou ouais. Parce que sur Internet, il y a de tout.
Ben oui,
c'est sûr.
Ben non, les gens font. C'est facile, t'es caché derrière ton clavier, je veux dire.
Ouais.
Donc, par contre, donc les gens qui viennent me voir en général, c'est des gens qui sont contents ou sinon qui vont me dire j'aime pas tout ce que vous avez fait, mais j'ai du respect pour vous, merci pour votre travail, merci pour votre transparence. Tu sais, je veux pas m'envoyer des fleurs là, mais je veux dire ils me disent des choses qui pour moi sont belles, sont importantes. Puis des fois je vais sentir qu'il y a des gens qui m'aiment pas ou enfin ils m'aiment pas.
Ceux-là ils vont moins venir.
Ils se poussent ailleurs là. Ah, oui. C'est tout là, c'est correct, on peut pas être aimé par tout le monde.
Bonne job. C'est une job, je dirais presque impossible, là, être maire ou mairesse de Montréal, dans le sens que on voudrait régler tous les problèmes, mais aussi, tu sais, il y a les autres paliers de gouvernement, tu sais, on est limité quand même dans ce qu'on peut faire quand on est maire ou mairesse de Montréal.
Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais il y a aussi, en fait, j'ai envie de dire, tu sais, traditionnellement, une ville, sa job, c'est s'occuper de l'espace public et des services aux citoyens. Des bibliothèques, des piscines, des neigers, enlever les poubelles, l'éclairage, les parcs, les pistes cyclables, entretenir les rues, tu sais, mettons, là.
Ouais.
Puis, une métropole, nécessairement, il faut que ça s'occupe aussi du développement commercial, il faut que ça s'occupe des universités, donc attirer des étudiants, tout ça. Là, t'en rajoutes une couche. Mais là, puis jusque-là, je pense que ça va bien, tu sais. Le milieu du travail, le milieu les étudiants, le tourisme. Mais depuis quelques années, ce qui est nouveau, puis que les gens ne saisissent pas vraiment, c'est que tous les enjeux sociaux se retrouvent maintenant, non seulement dans les rues de Montréal ou dans des villes, mais en plus, le gouvernement se retire de certaines de ses responsabilités-là. Alors, on se retrouve avec ni les moyens, ni les pouvoirs. Évidemment, je parle d'itinérance, toxicomanie, santé mentale, les écarts socio-économiques, donc des gens de plus en plus pauvres, donc toute la question des banques alimentaires, les refuges, les changements climatiques. Ça se passe dans dans les villes. Puis moi, j'ai pas nécessairement les pouvoirs. Le transport, moi, j'en ferais-tu du transport si j'avais tous les moyens? C'est pas moi qui décide. Bon, je milite, puis je cogne à toutes les portes, puis je fais ce que je peux, mais c'est pas moi qui décide. J'ai pas les moyens financiers. Fait que ça fait beaucoup. L'habitation,
l'immigration. L'immigration, tu contrôles rien de l'immigration, alors que Montréal, c'est la place qui reçoit presque tous les immigrants.
65% des immigrants arrivent à Montréal.
C'est pas la mairesse qui décide combien on peut en recevoir.
En effet.
Ouais.
Fait que c'est ça que j'essaie un peu d'expliquer. C'est qu'une ville, ça s'occupe des gens sur leur territoire. T'sais. Ben, en fait, j'ai tout nommé les responsabilités, mais on veut que peu importe t'es qui, tu devrais pouvoir être bien là, sur un territoire donné. Moi, c'est Montréal. Mais nécessairement, avec les enjeux sociaux qui sont ceux du gouvernement du Québec puis fédéral, qui tombent dans les rues, moi, les gens, ils me disent, ah, mais là, il y a trop d'itinérance, puis c'est dur dans les quartiers parce que des fois, il y a des problèmes de cohabitation.
Ouais.
Et moi, je dis aux gens, j'ai pas d'infirmière, j'ai pas de travailleurs sociaux, j'ai pas de psychologue, j'ai pas de médecin, j'ai pas ça à la ville. J'ai des déneigeurs, j'ai des cols bleus, ça j'en ai, là, puis ils sont bons, puis ils s'adaptent, puis ils contribuent.
Les opérations d'éneigement sont nickel.
Mais c'est ça, tu sais, fait que c'est ça que ça devient difficile. Puis je pense que pour les gouvernements supérieurs, il y a quelque chose. Je le dis pas pour dire qu'ils sont pas fins, là. Je sais pas un individu, mais je veux juste. Si on fait de la politique, là, la game politique.
Mm-hmm.
Ça leur sert bien que ça se passe dans les villes. Parce que les gens, là, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, je rencontre à la pharmacie ou ailleurs, lui, là, il situe.
Ils font pas le lien. Hein.
Il situe, c'est l'itinérance, c'est l'argent de Québec, la compétence d'Ottawa, mm-hmm. il sait pas. Lui, il habite dans sa rue, puis il voit des sans-abri dans sa ruelle, peut-être même qu'il consomme, il est inquiet, puis en même temps, il est bienveillant, puis il sait plus quoi faire.
Il a raison d'être
inquiet. Mais oui, il a raison. Mais le fait que moi, il débarque au conseil municipal, il débarque au conseil d'arrondissement, il pleure, il crie, il est fâché. Puis en plus, comme on dit avec les médias sociaux.
On le voit, là, maintenant.
Ouais.
Fait que moi, je me dis toujours, hey, une période de questions là, au Salon Bleu là, à Québec, là, je te dis que ça. Des citoyens là, désemparés, fâchés, motivés, qui viennent poser des questions précises à leurs élus, là, j'aimerais bien ça.
Mm-hmm. Parce que ces enjeux-là, que mobilité, itinérance, puis accès à logement abordable, c'est quand on pense aux enjeux de Montréal, c'est probablement les enjeux principaux, finalement.
Absolument.
Fait que c'est au gouvernement provincial qu'il faut aller cogner. Puis,
comme je dis, nous, on est là pour aider, dans le sens que à la base, mettons, Montréal, on ne s'occupait pas de l'habitation. Ce n'est pas une compétence de construire. Moi, je n'ai pas de pépine. Encore une fois, j'ai bien des camions pour charger de la neige, mais je n'ai pas de pépine qui construit. Mais c'est sûr que quand on est arrivé en poste, nous autres, le jour 1, on a vu que la crise du logement était déjà à Toronto, à Vancouver. On
s'est dit, ben là, ça s'en vient,
là, c'est comme évident. Donc, on décide d'acheter des terrains, d'augmenter les budgets pour acheter des terrains qu'on vend à presque, mettons, une pièce à des organismes communautaires pour qu'ils construisent. Fait que moi, je prends l'argent des contribuables pour acheter des terrains que je redonne ou à presque, que je vends à peu cher à des organismes. Mais les organismes qui font du logement social, ils frappent à la porte du gouvernement du Québec puis disent, bien, c'est vous à payer. Tu sais, moi, je vais le construire, mais c'est vous qui devez le payer. C'est normal, c'est du logement social.
Ouais.
Fait que là, quand il n'y a pas l'argent du gouvernement, ben ça ne se construit pas. Là, c'est plus compliqué que ça, là. Mais, tu sais, pour donner une idée, fait que nous, on a beau essayer de dire, bon, puis même en changement climatique, là, je construis des parcs éponges, là, j'aime ça.
On a fait un forum avec les parcs éponges.
Je suis contente, j'ai lancé les parcs éponges parce qu'à base, tu sais, ça a déjà existé avant moi, là. Ça s'appelait des Water Square, puis bon. Moi, je dis, ah non, des parcs,
c'était
des parcs.
C'était pas, pas le Wasserman.
Sponge Park. Moi, j'utilise ça partout. Tout le monde adore ça quand je voyage. mais c'est ça, tu sais. Et donc, on investit pour adapter le territoire, mais il en demeure pas moins que faire des parcs éponges, à la limite, ça va toujours. Mais pour, mettons, changer les infrastructures souterraines ou pour vraiment faire protéger les berges, moi, j'ai besoin du gouvernement du Québec. Je veux dire, il pleut pas juste à Montréal. Des inondations, elle se dit pas, ben tu sais, je vais arrêter... à Montréal plutôt que d'aller... Tu sais, ça marche pas de même, là. Fait que c'est là où on essaie beaucoup de sensibiliser le gouvernement, à dire, nous, on est partie prenante, nous, on est vraiment embarqués, là, motivés par comment on adapte notre territoire, comment on soutient notre monde, mais on aimerait ça avoir la reconnaissance puis qu'ils suivent, là, tu sais.
Ouais.
Là, c'est bien compliqué. C'est compliqué pour l'itinérance, c'est compliqué pour le logement, c'est compliqué...
on a l'impression que ça se renvoie la balle un peu, là.
Bien, c'est ça qui est plate pour les citoyens. Puis je les comprends, ils sont comme, hey, entendez-vous, là.
C'est ça, nous autres, c'est comment, c'est votre problème. Mais non, c'est votre problème. Ouais, là, c'est comme, mais là, c'est pas mon problème à moi. En tout cas, ça, je sais.
Bien, c'est ça que je disais, tu sais, tantôt, quand tu disais régler sa place publique.
Ouais.
C'est ça qu'il faut essayer de faire.
Ouais.
Mais en même temps, à un moment donné, il y a comme une limite quand tu as l'impression qu'on t'envoie des responsabilités.
Qui sont pas tiennes.
Oui, parce que moi, puis ce que j'aime rappeler aux Montréalais, puis je veux pas avoir l'air insensible en disant ça, mais par exemple, l'itinérance, tu sais, si je me mettais à créer des refuges aux frais des Montréalais, ben moi, je peux vous dire, il y a plein de personnes vulnérables, d'ailleurs, au Québec, qui se font dire, venez à Montréal, il y a des services. Encore une fois, à Montréal, on ne va pas mettre un péage puis dire, hey, toi, tu viens de où? Ça ne marche pas de même. On est une métropole. C'est ça que ça fait, une métropole. Ça a un rôle de métropole, c'est accueillant. Mais je ne peux pas non plus dire aux Montréalais que leur compte de taxes augmente, que c'est juste que c'est à eux, à travers leur portefeuille, de payer pour des compétences du gouvernement du Québec.
Ouais.
Mm-hmm. Je pense que c'est comme normal.
Il faut que tout le Québec fasse sa part à toute proportion gardée, justement, pour comme que ce problème-là, il y en a à Québec.
Pour
il y en
a, ça, tu sais, comme de la même façon, je dis, moi, j'ai déjà entendu des gens qui disent, ah, oh, ben là, tu sais, je veux pas payer pour le système de transport collectif de Montréal. Ben non, mais Montréal, on paye pour l'industrie minière en Abitibi, là.
C'est ça, exact.
Puis, tu sais, c'est ça, la collectivité.
Tout le monde le fait.
C'est ça, le bien commun. On
mais
se partage
les responsabilités. Mais c'est dur de... C'est dur de le voir comme ça pour l'individu. Là.
Ah, mais c'est ça.
C'est quand on entend toutes les affaires. C'est ça. C'est comme une grosse job de com, dans le fond, tu sais, on dirait.
Oui, c'est une grosse job de com.
Parce que c'est comme, pourquoi le gars qui est justement à CAPTCHA, là, en Abitibi. Lui, quand il paye ses taxes, puis qu'il voit que, genre, on reconstruit Montréal à coups de cône orange, puis qu'il se dit, pourquoi je paye pour ça?
Ouais, je suis à CAPTCHA.
En même temps, le déneigeur à CAPTCHA, probablement qu'il est payé aussi par les taxes des gens à Montréal.
Bien, c'est ça. C'est comme il y a c'est pour ça que j'essaie de sensibiliser à dire c'est quoi les grandes restes. Parce qu'une piscave, je dois avouer, ça va toujours rester les contribuables de Montréal qui ont payé pour, là, parce que c'est à main. Ça, j'ai du contrôle 100%.
Fait qu'à notre auditeur de CAPTCHA,
inquiète-toi pas, tu payes pas pour ma piscave. qui est sur Saint-Denis. Mais pour certains grands domaines, donc, comme je dis, tout ce qui touche la santé, les services sociaux, l'habitation, le transport, puis. Ça, c'est nos taxes, puis nos routes à travers la province aussi. Tout le monde paye pour ça. Même si tu as juste un bicycle, tu vas payer pour les routes à Bécomo pareil. Là. C'est correct.
Puis vous dites manquer d'énergie ou du moins...
J'ai-tu dit ça?
Non, bien, dans la décision de ne pas se représenter aux prochaines élections.
Okay. J'ai-tu l'air de manquer d'énergie?
Non, aujourd'hui, vous avez 100% d'énergie. Mais, tu sais, justement, la décision de ne pas se représenter, puis que vous ne pouvez pas garantir que vous allez avoir la même énergie.
C'est plutôt ça, la formulation.
Vous ne pouvez pas garantir. Est-ce que c'est ce constant, pas combat, mais cette constante négociation-là avec le provincial, puis de ne pas avoir des enjeux qu'on voudrait régler, qu'on ne peut pas aller à fond, est-ce que c'est ça qui gruge l'énergie?
Bien, il y a un paquet d'éléments là, qui viennent jouer sur notre énergie, là, c'est sûr. Fait, ça n'est un parmi tant d'autres. Je ne suis pas capable, on m'a beaucoup posé la question, mais c'est-tu ça?
Quoi?
C'est tout.
Ça fait quand même, ça va faire 8 ans comme mairesse de la métropole du Québec. J'ai passé à travers la COVID, crise économique, augmentation des vulnérabilités. C'est un contexte qui est très, qui n'est pas facile. Là.
Ouais.
Puis tu te retrouves les manches, puis tu avances. Puis avant ça, j'étais conseillère municipale dans le centre-ville de Montréal. Donc là, ça va faire presque 12 ans. Je pense qu'au final, il y a ça aussi. Puis tu sais, moi, je l'expliquais un petit peu, mais c'est, comme je le disais tantôt, j'ai un beau pouvoir, là, tu sais, d'être la mairesse en exercice. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai un pouvoir, plein de choses sur lesquelles c'est plus long, puis que je dois négocier. Mais ce pouvoir-là, pour moi, tu sais, ça j'ai jamais vu comme si ça m'appartenait, tu sais, puis qu'il faut que je le garde, là. Tu sais, c'est pas mon précieux, là. Puis c'est bien de
c'est
passer...
C'est pas la gollum de la
politique. Oui, c'est ça, exactement. c'est bon de le passer à d'autres personnes. C'est sain, c'est absolument sain. Puis ce qui me fait plaisir en ce moment-là, puis pourquoi je pars aussi fièrement, c'est qu'on a marqué le territoire de Montréal. Fait que même s'il y avait une prochaine mairesse ou un prochain maire qui décidait, hey, là, ça suffit, là, on enlève les pistes cyclables, le verdissement, et parce qu'on a doublé le verdissement à Montréal en 8 ans, c'est exceptionnel, là. Puis ça, c'est à coup d'achat, puis d'échange de terrain, puis de vraiment d'un effort très conscient dans ce sens-là. Mais ça peut pas revenir en arrière. Peut-être qu'ils vont vouloir en faire moins, mais. Puis si, ultimement, quelqu'un décidait d'enlever, mettons, les fameuses pistes cyclables, parce qu'avec les pistes cyclables, vient des élargissements de trottoirs, vient des feux piétons, vient une signalisation qui protège les piétons. Fait que la personne qui va vouloir faire ça, va falloir qu'elle assume aussi qu'elle est en train de d'enlever de la sécurité dans les milieux de vie. Puis à chaque fois qu'il y a une collision à Montréal, puis qu'il y a une collision mortelle ou grave, les gens disent... Sécurisons, ben nous on le fait. Fait qu'à un moment donné, il va falloir que les gens soient conséquents. Aussi, quelqu'un décidait de dire, ah ben là, hey, ça suffit, là, les chantiers, les cônes orange, on enlève ça. Ben ils vivront avec des geysers. Puis des geysers, ça coûte cher.
C'est ça, ouais.
Quand tu perds ton inventaire, quand tu perds des clients, quand tu te fais plus assurer parce que tu as été inondé. T'sais, c'est ça aussi, être mairesse. Il faut que tu assumes ce que tu dis. Mais j'ai pris un long dégo.
Ah, c'est bon. Ça sert à ça, un podcast.
C'est ça.
On a le temps.
C'est sûr que il y a des projets. J'aurais aimé qu'ils avancent plus vite, c'est certain. C'est sûr. Puis tu vas me dire, lequel? Mais j'en ai, puis il y en a que c'est sur du continu. Mais de ne pas avoir nécessairement tous les moyens nécessaires pour accomplir, je pense, la vision des Montréalais qui m'ont choisi à deux reprises, puis la deuxième fois encore plus fortement. Fait que c'est pas moi avec moi-même, là. Puis moi, je suis pas une mairesse qui est sortie avec des idées de mon chapeau en fonction du vent, est-ce qu'il soufflait, puis qu'est-ce qui serait populaire auprès des Montréalais. J'ai dit ce que j'allais faire, on m'a choisi deux fois, j'aurais voulu aller plus loin. Le transport, c'est le meilleur exemple. C'est sûr, j'aurais voulu avoir plus de transport collectif parce que
La ligne rose.
Enfin. Oui, ben oui, tu sais, là, on était toujours à l'étude, le tronçon de la ligne rose du centre-ville vers la Chine, mais celle qui devait aller du centre-ville à Montréal-Nord, ben, ça n'a pas été une priorité du gouvernement du Québec. Bon, lui a priorisé le transport de l'Est, qui est encore en attente, mais OK. Mmh. Mais au moins, il y a la ligne bleue. On l'a débloqué quand même avec le gouvernement du Québec. C'est, je suis contente, mais il en faut plus parce que les Montréalais, on n'est pas à Québec où le monde se dise pro-tramway contre le tramway. À Montréal, tout le monde en veut du transport. Tu sais. Mais il faut le faire.
Je relisais un article de 2017.
Quand j'ai peur, je me disais.
Non, mais qui était la proposition de la ligne rose qui était écrit une ligne rose d'ici 2025, tu sais. Puis quand on annonce des projets comme ça, ben oui, c'est ça. Quand on annonce des projets comme ça, ça paraît tout le temps loin, puis c'est comme, ah, ça va arriver.
C'est pas loin, c'est pas loin, c'est là.
On serait là, tu sais, on aurait eu une ligne rose aujourd'hui.
Moi,
c'était ça ma prochaine question, moi, parce que je trouve, puis moi, c'est ce qui me décourage le plus puis par rapport à la politique, puis c'est... qu'on dirait que en voulant, tu sais, tantôt on parlait de la polarisation puis du fait que c'est démocratique puis que c'est important d'avoir une démocratie puis plusieurs idées puis plusieurs opinions, mais on dirait qu'à cause de ça à cause de la polarisation des idées puis le fait que les gouvernements sont toujours cycliques puis ça change toujours de côté, on dirait qu'on n'est pas capable collectivement de prendre des décisions à 100% puis de les exécuter. Fait que ça fait qu'on fait des trucs à 50% tout le temps.
Ouais. On annonce, on désannonce, on fait des faits.
Dans une optique où est-ce qu'on se dit, OK, là, à go, Montréal, on la transforme en la capitale internationale du transport éco-responsable et collectif. Puis que là, on fait... Ça va être chiant pendant 10 ans, là. On le dit, ça va être chiant, mais dans 10 ans, tu sais, voilà, 10 ans, on s'est rendu dans 10 ans. On arrive 10 ans plus tard. Là,
tout à fait.
Puis de faire, OK, mais là, dans 10 ans, il n'y a plus personne qui va en parler.
Ouais. Tout le monde va être content que ça soit fait.
Il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui explique ça? Parce que, tu sais, des projets d'infrastructure comme le métro de Montréal, puis j'entendais encore une fois le maire. Ben, moi, je viens de Québec, fait que c'est le maire Marchand que j'entends souvent dans mes oreilles. Qui dit, il n'y a personne qui en voulait du métro au début, tu sais. Le métro, c'était comme un projet que le monde disait, on va payer pour le métro, on va être en chantier pendant des années. Regarde, quand le métro a commencé à être en service, comment Montréal était à l'avant-garde. Puis on dirait qu'on n'est pas capable de faire ça. On dirait qu'on n'est pas capable de lancer un projet d'envergure. Puis ça fait juste qu'on est comme, bon, mais là, on lance le tramway à Québec, mais là finalement, Poilievre, il veut enlever le tramway puis le mettre le troisième lien. Puis là, on va faire la bascule encore pendant 10 ans. Puis il n'y aura pas une pelletée de terre qui va se faire. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on n'a plus cette espèce de... tu sais, parce que ça... Je te pose une grosse question quand même.
Oui, c'est quelque chose,
tu sais. Je te le pose puis je te mets sur le spot, mais c'est parce que c'est probablement quelque chose que tu as déjà réfléchi, j'imagine. Pourquoi est-ce qu'on n'est plus capable de prendre des projets d'envergure puis de les mener à 100% puis qu'on est obligé tout le temps de se contenter de... Bon, mais là, on va faire, OK, une piste cyclable sur Saint-Denis en attendant pour peut-être voir si ça marche. Puis là, faire...
Ben, écoute,
beaucoup d'affaires.
Oui, quand même. Mais je prends le défi, là. C'est juste que c'est d'un projet à l'autre, c'est comme un peu différent. Mais je pense que tout d'abord, il y a comme la nature même des partis politiques, tu sais. Puis la façon dont ceux et celles qui les dirigent, puis comment eux vont se positionner. Je pense qu'à un moment donné, quand tu décides de te prendre un projet, c'est toi qui es à la tête d'un parti, ou enfin, tu t'avances. Moi, je vais parler pour moi, première magistrate. Là, je décide que, bon, ben, on va faire tel projet. On parle de Saint-Denis, mais tu sais, Saint-Denis, là, tu sais, c'est Henri Bourassa, c'est Jean Talon. Fait que, tu sais, c'est gros, là, le rêve. Ouais. Puis c'était. On ne savait pas qu'il y aurait la COVID arrive, tout ça. En sortant de la COVID, on commence les travaux. On est comme à la fin de la COVID, puis on commence les travaux. Puis là, on se dit, hey boy, il va vanter. Là, c'est sûr. Parce que le monde n'aime pas les travaux, les gens n'aiment pas les pistes cyclables. Ouais. Ou enfin.
Toutes ces raisons-là.
C'est ça. Ou en tout cas, il n'y a
personne qui aime les travaux. Même les gens qui aiment les pistes cyclables,
personne n'aime ça, des travaux. Ouais. Puis là, on se disait, qu'est-ce qu'on fait? On arrête-tu? On y va. Puis là, moi, je sais qu'à ce moment-là, il vantait tellement. Le monde me disait, oublie ça, tes prochaines élections, là, tu perds. C'était comme un an et demi, mettons 2 ans. Mais non,
quand
ben,
tu dis vantait, c'est comme tu vas contre le vent.
Là, tout le temps c'est le même. Tu sais, je vois dans les médias, puis c'est ça qui se passe. Mm-hmm. Ouais. Les médias sociaux, ça arrête pas! On tue la ville, ouais. littéralement. Là, on est en train de tuer la ville.
Vous êtes la pire chose qui est arrivée pour la ville de Montréal.
C'est ça. Fait que, ben, moi, tu dis, ben, moi, j'ai été élue.
En disant que j'allais,
en disant le faire. Fait que, tu fais ce que tu dis que tu vas faire.
Ouais.
Puis, en plus, moi, j'ai toujours pensé que les décisions, les meilleures décisions, puis pour, parce que moi, je dors très bien le soir, c'est toujours comme, j'ai-tu fait ce que j'ai dit que j'allais faire, mais sur quoi je m'appuie pour prendre mes décisions? Ben, moi, je me base sur la science.
Ouais.
Fait qu'à date, les décisions que je prends, c'est pas en fonction de mon électorat, c'est pas en fonction de qu'est-ce que je pense qui va être le fun puis qui va être sexy, parce que si c'était ça, je ferais pas des chantiers comme on en fait en ce moment là.
Mm-hmm.
Moi, je t'en rattrapage, je fais ce que les autres maires ont pas fait parce que c'est pas populaire.
Ouais.
Mais j'ai décidé que la piste cyclable, je la ferais. Ça a été difficile, puis après ça, ça a marché. Fait que j'ai envie de dire, d'une certaine façon, qui sont nos dirigeants, puis ça, pourquoi ils vont se battre aussi. Après ça, puis je suis pas en train de dire, hey, moi, je suis donc bonne, puis les autres partis sont donc pas bons. C'est plus complexe que ça, mais quand même, à un moment donné, si tu dis que tu vas faire quelque chose, puis après ça, tu changes d'idée parce que whatever, puis après ça, tu rechanges d'idée, puis après ça, tu rechanges d'idée. À chaque fois, tu as des dossiers pour montrer comment le monde ça, moi, je trouve que ça encourage, ça entretient le cynisme.
Ben, tout à fait.
C'est ridicule.
L'exemple du troisième lien est le meilleur.
Mais moi, j'ai rien dit, là.
Non, je comprends. Puis c'est pas ton dossier non plus, là. Mais moi, je me permets de le commenter. Moi, je le permets de le commenter, mais c'est la chose qui a probablement le plus contribué au cynisme politique
au Québec,
dans les dernières années, parce que
c'est un
flip-flop complet.
Oui, absolument. Puis après ça, ben, tu sais, moi, c'est à la grandeur d'une ville. Fait que c'est sûr que quand tu arrives à la grandeur d'une province ou d'un pays, il y a une complexité qui s'ajoute, là, hein, parce que ça, c'est sûr. Fait que je veux pas le minimiser. Mais peut-être aussi, c'est de revenir à c'est quoi nos projets de société, à quoi est-ce qu'on adhère. Puis moi, j'ai toujours pris des décisions en me disant, je sais que ça ne sera pas toujours populaire sur le coup, mais moi, je construis la ville pour les générations futures, tu sais. Moi, j'aimerais ça. J'aime penser qu'on a pensé à moi avant en faisant la ville. Fait que moi, je vais continuer à le faire. Fait que oui, la transition écologique, je vais la continuer. Oui, le transport collectif, je vais continuer. Puis le transport collectif, transport actif. Oui, je vais continuer à le faire. Puis je vais faire ce que je veux pour l'habitation. Puis c'est vraiment dans cet esprit-là, c'est ça qui me motive. J'avoue qu'à Montréal, on a une population, somme toute, très progressiste. Fait qu'il y a quand même une adhésion. Je pense que souvent, les plus grandes critiques viennent de l'extérieur de Montréal. Ouais. Je pense qu'on est dans un climat aussi où les gens, on aime taper sur Montréal. On a un gouvernement qui n'aime pas Montréal, mais qui n'est pas nécessairement, qui n'est pas en amour, ou en tout cas, il ne dit pas. On travaille bien avec le gouvernement du Québec. Ce
n'est pas sa base la plus forte non plus, à Montréal.
T'sais, je ne veux pas mêler la politique, mais c'est juste
certains diraient
que
c'est plus faible.
Ouais. Puis, je pense que beaucoup, c'est payant pour beaucoup de monde de taper sur Montréal. Montréal est sale, Montréal est dangereuse, Montréal est ici, Montréal est ça. Puis moi, à un moment donné, tu sais, je peux passer mon temps avec des médias puis dire, hey, les chiffres de tourisme Montréal sont incroyables. La ville, on n'a jamais autant investi en propreté. On n'a jamais, tu sais, on achète, on construit, ça se construit. Parce que d'ailleurs, les maudits travaux, on va se le dire, c'est aussi des tours qui se construisent, là. Tu sais, à un moment donné, il faut aussi accepter que...
On veut plus de logements, mais en même temps, on veut moins de travaux. C'est comme,
c'est là, il faut les construire. La ligne bleue, ça fait des travaux, mais c'est pour quand même bien faire une ligne de métro.
Ouais.
Fait que bref, tu sais, fait que je pourrais passer mon temps à faire ça, puis moi, à la place, j'ai plutôt décidé de faire le plus possible l'éducation, mais moi, le fait que j'ai décidé de faire la ville pour les Montréalais, et non, oui, j'aime ça les touristes, oui, j'aime ça les gens qui viennent de l'extérieur de Montréal, qui viennent à Montréal, absolument, mais moi, je fais la ville pour ceux qui l'habitent.
Ouais.
Mm-hmm. C'est eux autres qui m'ont élu, puis je considère qu'ils ont le droit à la même qualité de vie, tant au niveau de la verdure, la qualité de l'air, les façons de se déplacer de façon sécuritaire, que n'importe qui au Québec. Fait que,
cette vision-là de vouloir construire la ville pour les gens qui vont la vivre, mais aussi dans le futur. Je pense qu'il faut que tu sois quand même, naïf pour mettre les cônes oranges sur ta faute à toi. Parce que les réparations, les constructions, puis les chantiers, c'est à cause des choses qui n'ont pas été faites. Mais on en parlait de l'état des cônes oranges, parce qu'on peut pas te recevoir ici sans parler de cônes oranges.
La capitale.
Mais tu sais, pour être allé, il y a aucune ville que j'ai faite dans le monde qui a autant de cônes oranges.
Ah non, il y en a vraiment beaucoup, là. Ouais. Là, il y en a.
C'est quand même intense. Puis,
ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en soit là? C'est où? Parce que c'est sûr que c'est pas dans les 8 dernières années que tout a commencé à chier, puis que qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, puis qu'on en arrive à littéralement devenir un running gag? Ben, je m'inclus à Montréal, même si j'y habite plus, mais que Montréal s'est rendu quasiment un running gag. Comme on voit des cartes postales de Montréal que c'est des cônes oranges. Tu sais, pourquoi c'est rendu autant? Pourquoi il y en a partout autant? Pourquoi il faut autant refaire la ville? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, honnêtement, c'est vrai. Je vais le résumer. Bon, tantôt, je t'ai dit, tu sais, on est content parce qu'il y a un réseau de métro qui se construit, puis de l'habitation, puis ci, puis ça.
Il y a des constructions qui sont nécessaires, puis qui sont possibles.
Exactement. Puis sur 100 % des chantiers, 25 % c'est la ville de Montréal. 75 % c'est d'autres. Ça peut être Énergir, ça peut être Hydro-Québec, ça peut être un promoteur privé.
25 % c'est la ville de Montréal.
C'est ça. 75 % c'est pas nous. T'sais. Mais c'est pas une raison pour qu'on s'en occupe pas.
Ouais,
donc, fait que je veux pas non plus dire, bah, c'est de leur faute. C'est pas ça. Mais ça amène quand même une notion de gérer les partenaires qui, eux, font leur chantier.
Ouais.
Puis comment ils font? Est-ce qu'ils ont les mêmes standards que nous? Puis comment est-ce qu'on crée une charte de, non, quand tu fais un chantier, il faut que tu aies un couloir de sécurité pour les piétons. Il faut que tu ailles ici, il faut que tu ailles ça. Fait que c'est ça qu'on a établi dans les 8 dernières années. On a racheté des escouades de mobilité pour enlever les comptes qui traînent et tout le reste. Puis un des éléments que les gens savent pas, qui est comme anodin, mais en même temps qui fait tellement partie de l'irritation, c'est que les cônes oranges tels qu'on voit ici, ça, c'est des règles qui sont établies par le ministère des Transports du Québec. Pour lui, un chantier au coin, mettons, là, sur ta rue, là, en face de chez vous, là, une rue locale, là.
Mm-hmm.
Puis un chantier sur la 40, c'est le même cône orange, c'est la même quantité de cônes orange, la même distance entre les cônes orange. Voyez-vous ce que je veux dire?
Pour refaire un trottoir, c'est pas mal moins compliqué que de faire un embranchement complet qui va prendre la
bretelle. Oui, où est-ce qu'il y a de la vitesse,
où
est-ce qu'il y a des questions de sécurité essentielles. Mais nous, on travaille avec le ministère des Transports pour dire, hey gang,
ça pourrait pas être un petit drapeau.
Slaquer les cônes orange un peu.
Slaquer la distance, on peut. Puis ce qui est pas facile, c'est qu'il y a des ingénieurs qui signent les plans de. Fait qu'eux, ils vont même, je leur dirais, quelque chose, ils vont me dire, non, madame la mairesse, puis avec raison.
Ouais.
Eux, c'est leur ordre, c'est leur réputation, ils signent des papiers, puis. Puis même si j'enverrais pas des inspecteurs enlever des cônes, mais c'est niaiseux ce que je dis, mais je vous jure, là, ça enlève pas la quantité de chantier. Mais je veux juste dire de l'irritation visuelle, la grosseur des cônes,
c'est des énormes cônes.
Mais là, je sais pas si vous avez remarqué, oui, on a commencé à en mettre des petits, on a réussi à négocier, à en avoir des plus petits. Là, on en achète.
Mais c'est malade qu'on parle de la grosseur des cônes.
Mais quand je vous dis, je connais mes dossiers quand même.
Mais on a-tu fait?
Mais attends, je peux-tu? Je parlais plus. C'est juste parce que c'est une irritation visuelle. La quantité de chantiers, sérieusement, le réseau d'aqueduc et d'eau usée, souterrain, il y a encore des tuyaux qui ont à peu près 150 ans. Le geyser, là, on y donnait une bonne durée de vie encore. On espérait que ça soit encore une bonne dizaine d'années facile. Ben, à un moment donné, il a pété.
On savait qu'il y avait.
Oui, nous, on est des ingénieurs qui cotent tous les tuyaux. On le sait. Souvent, ils vont faire des réparations. Écoute, j'ai des tuyaux
c'était
qui sont énormes.
C'était quand la planification de rénovation de ce geyser-là? C'était-tu comme dans deux semaines?
Non. C'était comme genre dans 5-10 ans. Okay. C'était pas pantoute prévu comme ça. Ils font des inspections très, très souvent. Mais je veux. Puis je dis pas ça pour dire c'est pas de ma faute, parce que je pense pas que je suis une mairesse qui dit ça de toute façon. Mais vraiment, c'est pas normal que ce soit notre administration qui ait décidé de réparer des tuyaux. Une ville responsable, là, tu répares au fur et à mesure. Puis c'est pas le fun parce que t'ouvres la rue, puis t'emmerdes les citoyens, puis les commerçants. Mais d'avoir un réseau d'aqueducs dans le centre-ville qui a dans certains cas, plus de 150 ans, et, je vais vous dire, l'eau coule, là. Et même le gouvernement du Québec nous a dit, ont comme des normes, ils ont dit, là, c'est comme 30 % d'eau qui se perd dans le réseau d'aqueduc de Montréal parce que ça n'a pas été entretenu, même d'un point de vue écologique. Ouais. C'est absurde.
Il faut
là.
Le refaire de toute
puis là,
façon.
On s'entend, là, ça fait pas juste depuis 5 ans que ça
c'est
coule.
Ça
fait 10 ans, 20 ans, puis que c'est pas entretenu. Donc, ça... plus d'autres, comme je te dis, dans le centre-ville, tu sais, on refait, puis le fait que ça se construit, c'est positif. La seule chose que je veux ajouter, c'est que moi, j'ai décidé que si on était pour emmerder tout le monde, à ouvrir de faire des gros chantiers comme sur Sainte-Catherine, par exemple, j'ai emmerdé tout le monde parce que c'est emmerdant, un chantier, bien, quand on va refermer, on va le faire mieux.
Ouais,
et c'est là qu'on a décidé de ne pas refaire à l'identique. T'sais. On va élargir les trottoirs. Je ne sais pas si vous êtes allé au centre-ville. comme depuis dans la section qui sont refaites, là, il y a du monde. Il y a du monde sur les trottoirs. Puis après ça, quand ils arrivent dans les sections qui ne sont pas refaites, d'un coup, les gens se retrouvent en goulot puis sont juste comme, ils capotent. Parce que, tu sais, quand tu as de l'espace, tu as des poussettes, tu as des magasineurs, tu as des... Anyway. Fait que c'est difficile, les chantiers, mais je veux que quand... Ce que je souhaite, puis ce qu'on a décidé de faire, c'est quand on refait en mieux.
Oui.
Puis oui, on rééquilibre l'espace public. Ouais.
Parce que c'est ça, l'impression qu'on a, c'est qu'on on a peut-être chippé à un moment donné quelque part sur les routes, sur les tuyaux, sur les trottoirs. Puis là, c'est comme on paye pour ça, là, finalement, on l'a fait à rabais dans le passé, puis là, ça fait plus vite.
Mais surtout, on n'a pas fait.
Ouais.
Puis ça, ça donne que c'est dans le centre-ville que c'est le plus vieux, c'est normal. C'est pas à Montréal-Nord, puis à Annecy qu'il y a des studios de 150 ans, là. Non, dans le 10-30, tout ça. Tu sais, fait qu'il faut aller vers des villes comparables aux nôtres. Même Québec est plus, dans certains coins, je pense qu'eux, ils ont mieux refait, je pense, dans le temps de M. Lallier, ils ont mieux refait les tuyaux. Puis la ville est quand même plus récente que Montréal, à part pour la vieille ville, on s'entend, là. Puis les autres villes du Québec sont plus récentes que les nôtres. Quand on va à Toronto, moi, j'en vois beaucoup de cônes orange aussi.
Ouais.
Peut-être pas autant. Je veux pas commencer à partir un débat là-dessus, là. Non, parce que je suis consciente qu'il y en a beaucoup.
Le nombre de cônes par habitant, oui. Cônes par habitant, d'après moi, cônes par habitant à Montréal est pas si pire. D'après moi, cônes par habitant à Montréal est moins pire que Québec. J'ai l'impression.
Ben, je sais pas. Je sais qu'au Canada, on gagne pour le plus grand nombre de policiers par habitant, c'est à Montréal.
Ah ouais.
Mais le nombre de cônes orange, je le sais pas. Non. Je suis pas sûre, je veux le savoir.
Non, on veut pas cette statistique-là. admettons qu'il y avait. Admettons qu'on enlève la réalité, puis ton désir de quitter ton poste, admettons... Ben, quitter ton poste
qu'on l'enlève dans ce
non, mais qu'on, oui, mais admettons qu'on s'imagine dans un monde où est-ce que tu continues dans cette direction-là, puis la ville continue dans cette direction-là. Est-ce que il y a une fin à ce travail-là, au cône orange, puis à la restructure, l'entretien des infrastructures, tu sais, est-ce que...
Ben, au centre-ville, oui.
Ouais.
Tu sais, c'est un peu... Moi, j'ai parlé avec des collègues d'ailleurs, dont Boston. Eux, ont eu le Big Dig. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce chantier-là qui a monopolisé presque pendant 20 ans. Mais parce qu'ils ont tout mis... Ils ont enfoui les autoroutes. Ouais. Ils ont tout refait. Ils ont tout ouvert, le centre-ville, le grand centre-ville. Ça s'appelle le Big Dig. C'était horrible. Puis les administrations, les maires, à ce moment-là, je veux dire, ils se faisaient... Mon Dieu, ça serait fait crucifier, là. Ouais. Tu sais, le monde n'avait plus, là.
Ouais.
C'était horrible.
Ouais.
Surtout que le transport collectif, même à Boston, est pas. Tu sais, on est comme nous, on a un métro, tout ça, mais là-bas, c'est pas particulièrement. Il n'est pas pire, là. Mais il n'est pas aussi bon que la Montréal.
Ouais.
fait que c'est dur pour les villes nord-américaines aussi. Tu sais, on le voit bien, puis ça, c'est la vie. On est des villes qui ont été développées sur le modèle nord-américain, axé sur la voiture. Puis dès qu'il y a un rééquilibrage de l'espace de la voie publique ou quand il y a des grands travaux comme ça, ça a un impact d'abord sur les automobilistes. Et donc, c'est pour ça que quand on demande plus de transport collectif, c'est pas une dépense, transport collectif. C'est encore beaucoup vu comme ça au Québec puis au Canada.
Ah,
ben là, on fait du transport. Encore une fois, pourquoi mes taxes paieraient pour du transport collectif à Montréal? Parce que les Montréalais payent pour les routes partout au Québec, comme tout le monde. C'est aussi simple que ça. C'est fou qu'on ait toujours ce... Ou, ben, je suis dans ma voiture, ben, la piste cyclable m'enlève de la place. C'est vraiment cette notion-là. C'est presque... J'ai déjà quelqu'un qui m'a dit que parce qu'on enlevait les stationnements au bout des rues, on peut pas, selon le code de la route, il y a un 5 mètres de dégagement. Ouais. Mais c'est jamais respecté. C'est pour ça que nous, on a fait des avancées de trottoirs, des saillies de trottoirs. En conseil d'arrondissement, il y a un monsieur qui était venu me voir, il m'avait dit c'est de l'expropriation déguisée. J'étais comme, mais monsieur, l'expropriation de qui, de quoi?
De mon char!
Non, mais tu sais, ça a évolué depuis, là. Mais sur le coup, j'étais comme, waouh, OK, tu sais. Mais je comprends, là, je l'entends des fois dans les discours. C'est pas un crime d'avoir une voiture. Ben non, c'est pas un crime, c'est sûr. Mais d'avoir un vélo non plus, puis de marcher non plus, tu sais.
On en parlait juste avant que vous arriviez tantôt, tu sais. Puis on dirait qu'il y a quasiment quelque chose de sacré avec le char au Québec. Là. C'est quasiment, je disais, c'est quasiment comme notre char, c'est les guns aux Américains. Là. Dès que tu touches à ça, c'est comme. Tu peux pas toucher à ça, tu sais, mais.
Deuxième amendement au Québec.
Ah, c'est ça, c'est comme tout le monde a
le droit de faire un char. Donne pas des idées, toi, là.
Mais, tu sais, puis, je veux dire, ce modèle-là, je veux dire, de comme on s'en va toutes dans la même direction, chacun dans notre petite auto vide, qu'on est tout seul, dans un bouchon de circulation, sur le pont, je veux dire, à un moment donné, il va bien falloir qu'on se rende à l'évidence que ça fonctionne pas, tu sais.
Puis,
comment comment convaincre le monde? Puis c'est quoi les... Tu sais, il y a des villes qui mettent du péage, il y a des villes qui, tu sais, qui a bien des solutions qu'on peut faire, mais tu sais, c'est... Je veux dire, moi, j'ai l'impression qu'à un jour ou l'autre, peut-être, c'est-tu dans 20 ans, c'est-tu dans 50 ans, mais à un moment donné... Le char, il va tranquillement se transformer en quelque chose d'autre là, ou disparaître, mais genre, c'est comment qu'on arrive là, puis comment qu'on convainc les gens de, comme, il y a des manières pour plusieurs raisons meilleures que l'automobile.
Mais moi, je trouve que la façon la plus simple, j'y ramène, c'est du transport collectif. Mais encore une fois, c'est, tu sais, on a des gouvernements, on est dans une société où, quand on construit un nouveau quartier résidentiel, on se pose pas la question si on va construire une route ou non, mais c'est une fois que le projet est fait qu'on se dit « Ah, oh, ça aurait peut-être été une bonne idée de mettre une ligne d'autobus ou… » C'est comme, tu sais, c'est ça qu'il faut changer.
En le développant, réfléchir. Oui. C'est pas ça qui se passe.
Ah, ça se passe jamais comme ça. Puis, encore une fois, tu sais, moi, je reproche pas aux gens qui habitent, je parle de l'île de Montréal, je parle même pas des banlieues, là. Tu habites à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, tu veux venir travailler à Montréal, tu dis, hey, je vais prendre le transport collectif. Ça va te prendre une heure et demie, là.
Ouais.
Fait que, je les comprends de prendre leur voiture, je ferais la même affaire qu'eux, c'est normal, là. Fait que, tant que tu n'as pas eu des options intéressantes, rapides, efficaces. Et quand on se promène, quand on voyage, on est content de prendre le transport collectif. Parce que ça marche, c'est le fun. Puis je pense qu'il y a encore aussi, tu sais, c'est sûr, ça va prendre. Il y a des personnes qui vont dire non, je veux rien savoir. Bon, ben garde, reste pogné dans ton bouchon de circulation. Mais c'est ça que je trouve difficile en ce moment, c'est que les gens, ils ont l'impression qu'on leur enlève, par exemple, moi, notre équipe enlève de l'espace aux automobilistes. Mais le problème, c'est que on prend le problème à l'envers. S'il y avait plus d'options, il y a beaucoup plus de monde qui délaisserait leur voiture solo pour aller dans du transport collectif. Encore une fois, là, il faut juste comme avoir des gouvernements qui vont dire, ben le transport collectif, c'est non négociable. Ça vient. Puis pas juste à Montréal. À Gatineau, il devrait en avoir. Ça n'a pas de bon sens que là-bas, il n'y en ait pas. Sherbrooke. Tu sais, si on veut inciter les gens à le prendre... Ben, il faut, enfin, à délaisser la voiture solo, c'est ça. Puis après ça, ben, si tu décides de prendre ta voiture, ben, je veux pas dire que c'est ton problème, parce que je veux pas non plus minimiser le fait qu'il y ait des gens qui ont besoin de prendre leur voiture. Vraiment, là. Puis moi, je pense souvent à toute la chaîne logistique, la livraison, tout ça, ils peuvent pas prendre le métro, là.
Non, c'est ça, exactement.
Fait qu'on peut-tu faire de la place pour le monde qui ont des trucs à livrer, tu sais? Ouais. Fait que quand tu me parles des péages et tout ça, oui, c'est des idées qui émergent, mais des fois, moi, je suis comme... Caroline, j'aimerais tellement ça qu'on ait une vision commune de développement de transport collectif pour qu'on se partage tous la facture plutôt que de nécessairement aller faire payer la personne dans sa voiture.
Ouais.
Je pense qu'éventuellement, on va peut-être devoir se rendre là. Puis tu sais, même nous, dans la région métropolitaine, on a une taxe sur l'immatriculation. Fait que cette méthode-là existe déjà, mais j'aimerais ça que ça soit comme...
Plutôt que punir, encourager des bonnes pratiques.
Il faut falloir à un moment donné punir. Là. On n'aura pas le choix, mais c'est pour ça qu'en ce moment, ce qui me fait un peu peur, c'est que le gouvernement du Québec ou les gouvernements adorent la stratégie d'électrification. Là. C'est comme la panacée, mais ça ne va rien régler en termes de congestion. Si tout le monde qui a un char au gaz en ce moment, un char électrique, il y a autant de congestion qu'avant. Puis on fabrique des chars. Puis toute cette industrie qui consomme, fait que moi, je me dis, on peut pas. C'est bien l'électrification. Là, absolument. Mais en parallèle, faut donner des options de transport collectif. Puis après ça, si les gens disent je veux prendre mon char, c'est ça. Ça coûtera. Il y aura peut-être un péage à un moment donné. Il y aura peut-être. Nous, on veut faire des zones piétonnes ou des zones zéro émission dans le centre-ville. La forme que ça va prendre à Oslo, il y en a une forme. À Londres, il y en a une autre. C'est pas pendant mon mandat que je vais pouvoir le faire, mais on s'en va vers ça là, pour enlever de la pression sur les centres-villes aussi. En tout cas.
Parce que c'est vrai que le concept punitif ou du moins donner la facture aux gens qui ont des voitures pour conserver leur voiture, s'ils n'ont pas d'option, c'est vraiment tough.
Mais
c'est chiant.
C'est déjà un peu ça dans le sens que avoir une voiture à Montréal, te parquer, ça coûte cher. Il y a plein d'affaires qui coûtent super cher, qui est comme qui donne moins envie d'avoir un char puis de prendre ton char. Mais tu sais, on dirait que les inconvénients sont encore pas assez grands pour. Ben, il y a plein qui.
Ouais, ou les communs, solutions là. Sont encore pas assez faciles.
Pas assez facile.
Mais c'est comme les deux ensemble. Moi, je trouve qu'il faut la carotte puis le bâton. Ouais. Pour moi, la carotte, ça serait beaucoup de transport collectif, une offre efficace. Puis le bâton, après ça, ben, c'est ça. Il y aura peut-être comme tu veux rentrer en ville, c'est ça. Ou dans telle zone, il y a tel montant. Ou mais ça serait le fun que ça soit en parallèle, alors que présentement, c'est comme on les passe, on pense les deux solutions en huis clos, tu sais, indépendamment. Mm-hmm. On peut-tu comme les réfléchir? Puis sur le long terme, évidemment, mm-hmm. là, tu sais. Ouais. Mais j'ai bien hâte de voir, on va s'entendre, là, pour des politiciens, là, aller dans ces domaines-là de questions là, de péage, puis tout ça, c'est épouvantable, là.
Mais oui, c'est ça,
très
exact.
Douloureux, là.
Mais oui, c'est sûr que ça va faire des fâchés, là. Ça va être des...
Mais c'est parce qu'encore une fois, c'est polarisant. Fait que les gens, on revient à ta question du début, c'est qu'ils demandent des fois presque une question d'identité. Fait que c'est comme si, tu sais, comme on me disait, là, c'est pas un crime d'avoir un char. Ouais. Mais qui dit que c'est un crime? Mais je disais, mais c'est ta décision. Mais c'est les gens deviennent comme, ah, tu m'enlèves mes droits, tu m'enlèves, tu sais, on attaque les gens dans leur fondement, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est de trouver un équilibre. Mmh. Mais bon, enfin.
On est loin d'être extrême. Là. Je me rappelle à Singapour, la taxe pour avoir le droit de rouler sur Singapour, là, c'est une affaire comme 20 000 $ là, pouvoir utiliser ton char. Fait que tout le monde est comme dans le réseau souterrain de métro.
Ouais,
il y a deux Lamborghini qui se promènent, tu sais, au centre-ville. Juste du monde qui ont vraiment de l'argent, qui acceptent de payer la taxe de 20 000 $
Mais c'est ça que... Tu sais, ce que tu dis, ça, c'est intéressant. Ça me fait un peu penser à Los Angeles avec les pompiers privés. C'est ça qui n'est pas facile non plus dans ces mesures-là. C'est qu'il faut aussi trouver une équité. Mm-hmm. Dans un monde où on a de plus en plus de clivages socio-économiques, il ne faut pas que les mesures...
Ça crée deux classes de citoyens.
C'est ça, exact. Que là, finalement, tu as du monde super riche, que les autres roulent en Lamborghini sans trafic. Ah. Là, tu as comme tout le monde dans le souterrain.
C'est ça,
même,
c'est ça. Fait que, ça aussi, c'est intéressant, je trouve, dans le service public, il faut réfléchir à ce genre de choses-là aussi. Là. Mm-hmm. Vous pouvez garder une équité. Mm-hmm. Parce qu'il y a des mesures, des fois, qui ont de l'air bien bonnes, mais que, voilà, on rentre dans la complexité.
Ouais, oui, encore. Tout à fait. C'est toujours ça. C'est toujours ça.
Fait que là, il vous reste à peu près 10 mois en poste.
Je suis rendue à 298 jours.
OK, fait que ça commence à avoir hâte, là.
Non, c'est parce qu'avant hier, j'ai dit
qu'il y avait 300. On compte en
jour. Dans deux semaines, je m'en rappellerai plus.
Faites les X à chaque jour, c'est le calendrier.
C'est combien de passe-partout, ça, exactement?
Écoute, c'est ça.
qu'est-ce que vous aimeriez... pouvoir réaliser avant de quitter? Y a-t-il des grandes, des choses sur la checklist qui ne sont pas encore...
C'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a deux jours, justement, j'annonçais des choses que je rajoute dans ma chaîne pour te dire.
Ouais, c'est ça, c'est pas fini, là.
Mais non, c'est pas fini parce que, tu sais, on a plein de chantiers en branle. Je pense que le monde connaisse mes priorités, n'est-ce pas?
Ouais.
Mais j'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit, hey, les présidents américains, eux autres, quand ils s'en vont, tu sais, ils se donnent un peu des nananes, là, un peu, là, où, genre, ils vont gracier des gens. Bon. Moi, je peux pas garder. Fait que je me suis dit, tiens, je vais rajouter des petites choses le fun. Des petites choses le fun. Alors, entre autres.
Ouais,
c'est intéressant.
Ça. Ben là, c'est parce que c'est, je l'ai dit un peu, mais bon, ça m'a fait plaisir de vous partager. Il reste encore à peu près 17 écoles où il y a la limite de vitesse est vraiment encore comme genre 40-50 km/h. Nous, on baisse beaucoup les vitesses dans nos arrondissements de mon parti politique, Projet Montréal, surtout les quartiers centraux, il y a beaucoup de monde. Fait que nous, on les a baissés, mais on trouve qu'il y a des écoles où ça roule encore trop vite. Donc là, moi, je suis de façon unilatérale, je veux juste, on baisse les vitesses pour les boulevards de 50 km/h. Et ça roule vite, là, 50 km/h à côté d'une école. Je vais aussi travailler sur la question de l'itinérance. Je veux dire, c'est un sujet dont je parle à tous les jours avec mon équipe. Et ce qu'on veut faire, c'est plus d'unités modulaires. Comme on a déjà présenté un projet d'à peu près une soixantaine d'unités. C'est quoi des unités modulaires? C'est vraiment comme pas un refuge, parce qu'un refuge, c'est pas un mode de vie, là, c'est dur. Là. C'est des gens où une halte chaleur, t'arrives le soir, tu fais dodo sur une chaise, ouf, le lendemain, tu quittes. Là.
Une solution temporaire.
Tu te retrouves dans la rue. C'est pas une vie.
Ouais.
Les unités modulaires, c'est vraiment un peu comme une transition avant qu'il y ait du logement social que le gouvernement du Québec.
C'est une habitation mobile?
C'est c'est comme si t'avais une petite... imagine les un peu comme les roulottes de chantier, grosso modo. Ouais, là. Mm-hmm. Puis c'est comme si t'as comme ta petite chambrette, puis il va y avoir les salles de bain, les douches, il va y avoir un bloc aussi avec les intervenants sociaux, parce que souvent, c'est des personnes qui ont besoin de soutien communautaire, qui peuvent avoir des enjeux de santé mentale ou autre. Et puis, t'as aussi comme la cuisine et tout ça. Fait que ça crée une petite communauté. Puis ça, en général, c'est des projets qui marchent bien. Mm-hmm. T'sais, comme une certaine façon de raccrocher les gens.
Ouais.
Parce que souvent, à force de vivre dans la rue ou dans les refuges, les gens, il y a des gens qui, on les perd, là.
Ouais.
C'est ce que les gens me disent, surtout ceux avec des problèmes de santé mentale. Mm-hmm. Fait que ça, on veut accélérer ça. Aussi,
ça, il y en aurait un petit peu partout. Excuse-moi, je vous ai coupé, là.
Ouais.
Serait où, en fait?
Ben non, ça, c'est ça qui n'est pas toujours facile non plus, parce que, tu sais, moi, des terrains, j'en ai pas tant que ça non plus, la Ville de Montréal, mais ceux qu'on a, ceux qu'on peut rendre disponibles, parce que soit des questions de contamination, c'est pas simple. C'est déjà pas simple, c'est toujours complexe.
Ouais.
Mais on voudrait qu'il y en ait dans différents endroits, parce que ça aussi, moi, comme mairesse de Montréal, je suis très préoccupée par la surabondance des ressources pour personnes vulnérables. Il faut qu'il y ait une équité territoriale. Oui, il y a des personnes en situation d'itinérance à Saint-Laurent ou à Pierrefonds ou à Rivière-des-Prairies ou Montréal-Nord. Fait que ça ne peut pas être concentré juste dans la ville.
On veut pas que tout le monde s'en vienne dans la même place.
Non,
là, on veut...
c'est intenable pour le milieu, c'est étonnant pour eux. C'est, fait qu'il faut qu'il y ait une certaine redistribution, mais ça amène, bien sûr, vous imaginez bien, des enjeux peut-être de cohabitation sociale ou de réticence. Ce qui est correct, mais on veut...
Tout le monde veut qu'on fasse quelque chose pour l'itinérant, mais...
Personne qui veut que ce soit fait dans sa cour.
Pas son voisin tout le temps.
Bien, parce que, tu sais, puis on s'entend, là, moi, je veux pas généraliser, je constate que les Montréalais sont extrêmement bienveillants, vraiment. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'il y a eu, dans certains cas, tu sais, quand il y a des gens qui consomment dans ruelle, puis tes enfants vont à l'école, je veux dire, c'est sûr que le monde sont comme, mais voyons donc.
Ouais.
T'sais, je les comprends. Puis c'est là que ça me ramène à dire, c'est pas normal qu'une ruelle ou qu'un parc devienne un hôpital.
Ouais.
C'est là qu'il faut que la santé vienne s'occuper de ces gens-là, les sortir de la rue. T'sais. Je reviens un peu à mes certaines, pas frustrations, mais comme quoi c'est des décisions qui doivent être travaillées avec le gouvernement du Québec.
Ouais.
Peut-être un autre élément aussi que je veux, sur lequel je veux travailler, c'est les locations à court terme de type Airbnb.
Ouais.
Ben, les chiffres qu'on a démontrent que la majorité sont illégaux.
Ouais, c'est ça. Hein?
Ouais, ouais. Puis, le gouvernement du Québec a passé une loi. Nous, on a des inspecteurs, mais c'est pas suffisant. C'est très difficile de faire la preuve avec Revenu Québec.
C'est sûrement facile aussi de
contourner.
Pas falsifier, mais justement, c'est ça, contourner. Parce qu'il faut que ce soit ta résidence principale.
Oui, exactement.
Mais tu sais, c'est quelqu'un qui est en couple, qui a juste besoin de dire « moi, j'habite là », puis il est chez sa blonde.
Puis en plus, je veux pas rentrer dans les détails, mais c'est Revenu Québec qui fait les enquêtes. Nous, on leur dit « hey, tel cas où... » Parce qu'on n'a même pas accès, nous, dans la ville, on n'a pas accès aux données sur est-ce que c'est une résidence principale ou pas. Ça dépend de l'impôt.
Mm-hmm,
même ça, tu sais, je suis hyper limitée, mais ce qu'on sait, c'est qu'en ce moment, pendant qu'une crise du logement, puis qu'il y a du monde qui dorme dans la rue, moi, j'ai plein de locations à court terme.
Est-ce qu'on sait à peu près combien de locations à court terme sont illégales?
Des milliers.
Des milliers?
Oui, oui. Mais des ça, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, on va en reparler plus là, dans quelques semaines quand on va faire l'annonce officielle de qu'est-ce qu'on va faire. Mm-hmm. Puis l'idée, c'est pas de l'interdire, hein, parce que c'est un modèle qui est vraiment intéressant. T'sais, moi, je l'ai déjà utilisé Airbnb ailleurs dans d'autres pays. Là. Fait que, tu sais, je veux pas dire que c'est juste pas bon. Par contre, moi, comme responsabilité à la Ville de Montréal, je veux m'assurer que ceux qui le font légalement.
Exact,
c'est tout, là. Puis, tu sais, le tourisme, on aime ça. Puis, comme je dis, il y a des gens, surtout pour les familles, ou même pas, mais c'est le fun, un petit appartement. Puis, tu peux vivre l'expérience
de la ville, tu sais.
Oui,
moi,
c'est ça.
J'étais allé en Espagne, à Madrid, puis j'ai été capable...
J'allais dire, j'espère pas Barcelone, parce qu'eux autres sont en guerre. Hein,
À Madrid.
Tu es en guerre avec Airbnb? Mais à New York, ils ont interdit Airbnb aussi.
Ils ont interdit. Et Barcelone, puis c'est pourquoi je te parle de ça, tu as raison, pour Madrid, je connais pas la situation, mais à Barcelone, c'est que maintenant, c'est la population qui vont devant des blocs où il y a des touristes, puis ils manifestent. T'imagines comme tout. Mais c'est pas bon pour le touriste non plus, là.
Le pauvre touriste, moi,
je voulais juste visiter la ville. Fait que, tu sais, on peut pas s'entendre qu'un touriste va dire est-ce que cet hébergement respecte les règles de la province, de la ville? Fait que nous, on veut simplifier, serrer la vis. qui est légal restera légal, sera possible, mais ce
parce
qui est pas légal...
Parce que c'est le fun de pouvoir avoir des touristes qui viennent vivre l'expérience. Ben, c'est ça que je veux dire avec l'exemple à Madrid, c'est que moi, j'ai
mais
réussi
c'est du
à
vrai
vivre
monde,
ben, oui,
l'expérience madrilène.
Dans un petit quartier, voir la vie.
C'est sûr qu'un investisseur qui achèterait des blocs puis qui sont vides le trois quarts du temps puis qui louent sur Airbnb.
Parce que c'est plus payant pour lui de faire la location à court terme plutôt que de louer...
À des gens qui en ont besoin.
Moi, je vais toujours choisir les Montréalais qui veulent habiter à long terme plutôt que les habitations illégales. Mais, fait que voilà, ça s'en vient. Mais c'est quelque chose que j'avais envie de faire, comme d'autres villes aussi ont fait, avec des modèles différents. Il y en a que c'est... Enfin, chaque ville a ses législations, mais je pense que ça va être... Ça ressemble à ça, je pense. Des parcs éponges, c'est sûr.
On continue les parcs éponges.
C'est sûr. Dès qu'il y a des rues éponges, des trottoirs éponges. Ouais.
Si tu avais à te parler à toi au début de ton premier mandat, qu'est-ce que tu te dirais comme conseil ou comme mise en garde? Puis là, la question, c'est pas qu'est-ce que tu ferais différemment, parce que j'aime pas cette question-là, mais qu'est-ce que tu te dirais pour être plus avisé, sachant ce que tu sais maintenant?
Je pense que je me dirais juste « It's gonna be a bumpy ride ».
Ah ouais, hein? Attelle-toi, plus que tu croyais.
C'est ça l'affaire. Moi, je suis pas une personne qui appréhende les choses. T'sais, moi, je suis comme... Je pense que je sentais dans mon intuition, c'était comme... Bon, mais moi, c'est comme ça que j'ai envie de changer le monde. T'sais, avant, j'avais fait d'autres affaires. J'ai toujours été une militante. J'ai toujours été très impliquée socialement. La politique est arrivée. J'ai dit, on va aller voir ce que ça donne. Ça marche-tu, cette affaire-là? T'sais? Finalement, oui. Je deviens chef. Je deviens la mairesse. Fait que je me suis jamais trop, j'étais pas comme ça sera comme ça. Ouais. Puis je pense que c'est une bonne chose.
Ouais, sûrement.
C'est comme avoir des enfants. Ouais, tout le monde te dit tu vas voir, tu dormiras pas, mais c'est tellement merveilleux. Puis là t'entends tout ça, puis finalement
tu mets ça de côté puis tu fais ta propre idée.
Ben,
là.
Ta propre histoire, ton propre chemin. Mais clairement, je savais que ça serait. Il y aurait toutes sortes d'affaires, mais...
Des COVID, ça se prévoit pas. Des affaires aussi. Ah, que, c'est quand même fou là, ce qui s'est passé. Là,
on l'oublie déjà.
La ville en confinement.
Déjà dans le miroir arrière, on dirait qu'on n'y pense plus, mais comme il y a eu un bout bizarre en estime.
Ben, bizarre. Moi, quand j'y pense, je suis vraiment contente de ce qu'on a réussi à faire en 8 ans, mais d'une certaine façon, c'est plus en 6 ans. Ouais. Parce qu'un an et demi, 2 ans, tout est arrêté au moins pendant un an. Fait que je suis quand même très fière de ce qu'on a fait. Mais moi, je pense qu'en fait, je veux pas avoir l'air comme si je suis donc bonne, mais je pense qu'il y a quelque chose de bien de pas avoir, de pas avoir tout prévu. Puis je changerais pas grand-chose dans ce que j'ai fait. Parce que moi, je considère que même quand ça a pas marché, puis même quand ça a été difficile, ben on apprend, là. Ouais. C'est ça, la vie aussi. C'est juste
Exactement.
On tombe, puis on se relève, puis on en mange la garnotte, puis, puis on s'entoure de gens fabuleux. Puis moi, c'est ce que j'ai toujours aimé le plus dans ma job, c'est de rassembler, amener des gens dans une direction, mobiliser. Tu sais, moi, j'y crois au projet commun, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Puis comme mairesse de Montréal, ben ouais, j'ai été servie en termes de devoir mobiliser, puis ça fait pas l'unanimité, mais comme je disais, quand les citoyens me disent « j'aime pas vos décisions, mais moi, je vous aime ». Vous avez été, vous êtes droite, vous faites ce que vous avez dit. Fait que moi, je me dis, ben voilà, tu sais, pour moi, ça, c'est un des plus beaux compliments que je reçois. C'est, on est fiers de vous, Mme Plante, tu sais. J'ai voté pour vous la première fois, pas la deuxième, ou le contraire. J'ai pas voté pour vous la première fois, mais là, je vais voter pour vous. Fait que c'est très drôle. Il y a un peu de tout, là.
Ben oui. Puis qu'est-ce que... Tu sais, je sais que vous vous êtes peut-être posé la question plusieurs fois, là, mais tu sais, là, j'imagine...
Si on va avoir une réponse, si on s'en fait le podcast, on va avoir la réponse.
Je vais te donner mon plan de match, là!
Mais j'imagine... Première chose, aller respirer un peu, j'imagine, après ces 10 mois-là.
Ah, je vais beaucoup dormir. C'est intéressant parce que je suis bien entourée dans la vie, dans ma vie de famille, mes amis, mes collègues. Mais j'ai aussi... Je suis très proche de Régis, aussi de Maxime Penneau-Jobin, l'ancien maire de Gatineau. Fait que Régis puis Maxime, c'est des bons collègues.
Ils ont
collègues,
un club des mères retraitées anonymes.
Oui, je vais prendre ma carte de membre. Tu sais. Mais c'est le fun parce qu'eux, ils ont passé au travers. Fait que quand je les appelle, des fois, je suis comme, ouais, mais là, qu'est-ce qui va se passer? Puis ça va être comment? Puis ça, fait que j'apprécie beaucoup. Ils sont de bons conseils, vraiment. Fait qu'apparemment, il faut que je dorme beaucoup puis que je sous-estime probablement ma fatigue. Je pense qu'ils ont raison. Je vais voyager parce que avant d'être dans politique, moi, je voyageais beaucoup, puis des longues périodes. Je suis dans le communautaire. Dans le communautaire, souvent, on a peut-être moins un gros salaire, mais on a plus de temps. Fait que j'ai toujours fait de longs voyages. Fait que là, je suis prête à... J'aurais envie de... Tu sais, j'ai envie vraiment de prendre l'air, prendre le large.
De vivre un peu le...
Faire une désintox, là. Une détox qu'une désintox, là. Mais parce que moi, je carbure à... Tu sais, ma vie, moi, au quotidien, c'est...
C'est beaucoup d'adrénaline. Ça n'arrête jamais.
Ça n'arrête jamais, puis ça change tout le temps. Puis on devient accro à ça. T'sais, autant c'est extrêmement fatigant. C'est pour ça que le soir, moi, j'ai pas de la misère à dormir, mais c'est extrêmement exigeant. J'ai toujours mis autour de moi, je fais beaucoup de natation. C'est toi qui fais de la natation?
Oui, j'ai entendu parler, justement. Ben mon ami Xavier me disait que... Avec qui, donc? C'est ta belle-fille fait de la natation aussi?
Non, ma belle-fille, non.
Non, OK, ben c'est pas ça. C'est, en tout cas, j'ai une histoire...
moi, je suis une nageuse, là.
Ouais, c'est ça.
Une vraie, là.
Ouais, ouais. Ben écoute, nous autres aussi, en fait.
Ouais, toi aussi?
Ouais. Ben moi, ça fait longtemps, là. Mais tu sais, on a fait le sport-études au secondaire, natation,
moi, là,
les deux.
Ça a été mon rêve. Moi, dans mon temps en Abitibi, là, à Rouen, il n'y avait pas de sport-études. Oh! Je suis assez jalouse de ceux qui ont
c'était
fait ça.
Fun,
là.
C'était le fun.
Tu passes ta vie à nager, puis tu dis, mais nager.
Ouais. Mais vous faisiez de la compétition, puis tout, plus jeune?
Oui. Puis, tu sais, j'ai toujours gardé ça. Avec moi, je nage 3 fois par semaine. 7h le matin, je suis dans la piscine. Ouh. Été comme hiver.
Ah, mais là, on va pas
nécessairement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est drôle. J'ai choisi mes piscines, puis tout le monde est vraiment fin.
Ouais.
Ils sont très, très drôles. Des fois, ils sont comme. Bravo, madame la mairesse. C'est le matin à
7h. 3 fois par semaine. Ouais. Quand même, ouais, c'est bon, c'est bon.
Plus le yoga, plus le...
Ben, ouais. J'allais justement dire ça parce que, tu sais, des fois, tu vois, là, mettons, Barack Obama à son premier jour de mandat, puis là, tu vois une photo de Barack Obama à son dernier jour, puis tu fais tabarnak de 8 ans, là, tu sais. Mais toi, c'est pas ça. C'est,
on dirait... ben, ouais.
Non, mais c'est vrai, je suis honnête quand je le dis. On dirait pas que ça fait 8 ans, puis un 8 ans extrêmement stressant. Ouais. Fait que j'imagine que sport, pas de difficulté à dormir, le sommeil, le sport,
je mange
actif.
Bien, je bois pas, je fume pas. Écoute, mais je suis un peu plate, puis pourtant, moi, je suis une fille de party. Là. Mm-hmm. Bon, je lâche mon fou quand il faut.
De temps en temps.
Oui, mais
à la piscine à 7 heures.
Ben non, mais tu vois, c'est quand même, moi, je sortais toujours danser, là, mais à cette heure, j'y vais plus.
Toujours aller au Dai Gin.
Ouais, moi, j'allais beaucoup au Dacha, j'aimais beaucoup ça aller là, mais bon, ben là, je suis en train de dire des spots, là. Mais là, je vais moins danser, je danse dans mon salon, sinon je fais des parties, puis on danse jusqu'à tard dans la nuit. Mais oui, c'est ça, faut vraiment... moi, je suis hyper... Ben, je pense que c'est ça, c'est quand on a fait du sport, la discipline, je suis une personne extrêmement disciplinée dans... Quand je lâche mon fou, j'ai du fun en maudit. Mais le reste du temps, c'est comme focus, je fais mes choses. Quand j'ai des grosses journées, je fais des power naps, c'est prévu dans mon horaire. Tu sais, je fais vraiment tout ça. Puis pour Barack Obama, je dois dire que moi, j'ai de la teinture dans les cheveux.
Ah ouais, bon, c'est ça, c'est ça.
Mais je garde le compliment pareil, là. Ouais. Mais oui, c'est ça qui est particulier, c'est que là, les gens me disent, « Mais voyons, madame la mairesse, pourquoi vous partez? Vous avez dit que vous n'avez plus d'énergie. » J'ai dit, « Non, non, non. » J'ai dit, « Je suis pleine d'énergie. Je suis tellement en forme, là. Je pète le feu. »
Mais oui, c'est ça a l'air de ça. C'est parfait.
Fait qu'on ne sait pas, après les voyages, puis tout ça, qu'est-ce qui va se passer, là? Tu sais, est-ce qu'il va y avoir encore de la politique? Est-ce qu'il va y avoir...
Est-ce
que vous allez retourner
radio comme
commenter l'actualité ou retourner dans le domaine de l'anthropologie peut-être?
Ou de la muséologie, écoute.
Entraîneur de natation.
Ouais, je sais pas. Je sais pas. Puis je vous le dis, là, les gars, je suis vraiment franche. Puis je pense que.
Je vous crois.
Je veux aussi me donner cette discipline de ne pas entrer dans une réflexion trop rapide.
Ouais.
Puis c'est sûr, c'est un saut dans le vide. C'est quand même un vertige parce que moi, je suis une mairesse depuis 8 ans. C'est ça mon statut, c'est ça ma job, c'est ce qui me définit, ça fait partie de moi. Fait que détox, puis honnêtement, je vais réfléchir. C'est sûr, moi, je suis une touche à tout. Je suis une grande généraliste à cause de mon métier. J'aime écrire, j'ai toujours écrit. Il y a tellement de choses que j'aime faire, tu sais... Fait que j'ai envie de voir où
laisser
ça va
l'espace,
me mener.
Laisser l'espace à la création puis aux idées, c'est une bonne idée pour avoir des
parce
bons
que
des
je
bonnes
pense
pistes.
Qu'une des choses qui m'a le plus manqué pendant 8 ans, c'est de la spontanéité. Ce que j'aime, moi, j'ai quelqu'un qui m'accompagne dans tous mes déplacements, mon garde du corps, tout ça. J'ai au moins 6 personnes qui savent à toute heure du jour et de la nuit ce que je fais. Même quand je pars en vacances, je dis où je vais, nanana, nanana. C'est ça.
Une liberté qui prend le bord un peu quand on est maire ou maire.
Tu sais que ta liberté est partagée. Si un matin, je dis, ben je rentre pas, c'est, je pense c'est arrivé 4 fois dans ma carrière, tout le monde va dire oui. Mais c'est juste que, tu sais, il y a personne, c'est moi la boss. Ouais. Mais c'est juste que tu sais que quand je déplace quelque chose, il y a un effet domino là, mais incroyable. Là, c'est fait que ça, moi, j'en suis très conscient, je prends ça très au sérieux. Donc, ce qui m'a manqué, c'est de la spontanéité. Puis l'autre élément qui m'a beaucoup manqué pendant les 8 ans, c'est d'avoir de l'espace pour vraiment prendre un pas de recul. Je trouve ça tellement important, tu sais. Parce que moi, mon instinct, mon feu intérieur, je sais que j'ai l'air un petit peu New Age, là, mais c'est ce qui m'a toujours guidée, puis ça m'a amenée où je suis rendue. Mais faut l'entretenir, ça, tu sais. Ouais. Faut prendre ce pas de recul-là. Puis même si je prends 2 semaines de vacances, en fait, tu commences à avoir, à sentir que ton corps, après 2 semaines, il serait peut-être prêt à réfléchir autrement, puis là, hop, tu repars, puis là, c'est trouver des solutions à longueur de journée, puis prendre la pression et tout ça. Fait que c'est... Mais ça, j'appréhende que l'année prochaine, ça va être très particulier parce que ma job, je l'adore, vraiment. Puis en même temps, je sens que c'est la bonne chose à
faire.
C'est
le moment.
De juste passer le ballon, puis prendre un petit pas de retrait, puis dire, OK,
c'est... Ouais. Il n'y a pas de quand vous dites ça, il n'y a pas de doute ou de « je vais te regretter mais cette décision-là? »
Ben, c'est sûr, je vais regretter plein d'affaires. Là. Comme je dis, il y a tellement de choses que j'aime dans ma job. Là, c'est sûr, mais...
Mais les pieds dans le sable à Bali, c'est plus dur. C'est plus dur de regretter.
Ouais, pas de cône à sa plage.
Pas de cône à la plage.
Ah oui, c'est ça.
Il va y avoir un cône qui va la suivre. Cauchemar, là, parce qu'il y a en panique, il va y avoir un cône.
Je vais peut-être en avoir un petit mini dans ma valise pour me réconforter.
Ouais, c'est ça. Sentir un peu à la maison.
Les bottes de Jean-René.
Ouais, c'est ça. J'ai les bottes pour aller n'importe où. C'est ça, je vais avoir des regrets, mais définitivement, moi, j'y crois à tu sais, je. J'y crois à cet appel-là, puis à date, ça m'a toujours bien servi. Puis la dernière chose que je veux, en tout cas, c'était ou que je voulais, c'était de m'accrocher ou de... J'aime pas ça. Je trouve que c'est une tâche, c'est un rôle absolument exceptionnel, demandant. C'est un honneur. T'as des gens qui votent pour toi. C'est comme une grosse... comme appliquer pour une job, puis t'as un comité de sélection de...
Qui
des milliers de personnes, c'est quand même incroyable. Là. Donc, c'est un rôle incroyable. Et donc, j'ai tellement de respect pour la fonction que je voulais donner mon 100%. Puis, c'était ça, tu sais, de se dire, hey, je sais pas. La prochaine année, faire campagne, hey, j'avais hâte, là. Moi, j'aime ça, faire des campagnes.
Ah ouais, hein? Faire des campagnes, j'aurais pas pensé.
Ah oui, pourtant, ben, je suis une très bonne campaigner, là. Excuse-moi, là. Non, mais c'est vrai.
Ouais.
J'adore faire des campagnes. Tu sais, j'aime ça me battre, là. C'est sûr, là. Je pense que c'est la compétition, ça aussi. Ouais, tu sais, une compétition saine. Mais il y a cette idée de se dépasser, de faire... De vraiment faire une bonne job. Fait que ça, j'avais de l'énergie pour cette année, l'énergie pour l'année prochaine. Mais on dirait, je me disais, OK, 1 an, 2 ans, 3 ans.
Long, 4 ans.
Puis c'est un... Tu signes, là.
Ouais.
Puis moi, l'idée de dire, oh, ben, on verra bien. Puis je suis tannée, ben, je m'en irai. Coûte cher, des élections.
Faire un film.
C'est plate pour les citoyens qui t'ont choisi. Moi, j'ai rien.
Merci beaucoup.
Merci énormément.
C'est vraiment le fun.
Grand plaisir.
Vraiment. Yes.
Vraiment.
Bon succès pour la suite.
Merci.